Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Vincent Lambert, plongé dans un état végétatif chronique, ne doit plus être maintenu en vie. Ainsi en a décidé ce mardi le Conseil d'État. Une décision qui va dans le sens du souhait de sa femme et du corps médical, mais à l'encontre de celui de ses parents. Nous y revenons dès le début de ce magazine. C'est une affaire qui continue de faire beaucoup de bruit. Au lendemain de sa libération, Meriam Yahya Ibrahimi Chag a été arrêtée en tentant de quitter le Soudan. Cette jeune chrétienne de 27 ans, née de père musulman, avait été condamnée en mai dernier à la peine de mort pour apostasie. Retour également dans cette édition sur les paroles prononcées par le pape François samedi depuis la Calabre concernant l'excommunication des mafieux. Entretien avec un spécialiste du droit canon. Bienvenue dans ce magazine. C'était une décision très attendue en France. Vincent Lambert, tétraplégique en état végétatif depuis un accident de la route en 2008, ne sera plus maintenu en vie. Le Conseil d'État a tranché ce mardi. Depuis plusieurs années, cet ancien infirmier de 38 ans est au cœur d'un véritable drame familial. Ses parents souhaitant qu'il soit maintenu en vie, son épouse, son neveu et le corps médical réclament eux l'arrêt des soins en raison du caractère irréversible des lésions et considérant que cela reste respecter sa volonté. Vendredi dernier, le rapporteur public, Rémi Keller, avait préconisé un arrêt des soins. L'abbé Pierre-Hervé Grosjean, secrétaire général de la commission éthique et politique du diocèse de Versailles, réagit à cette décision de justice.
C'est une décision très grave qui a été prise. Pour la première fois depuis longtemps en France, une juridiction a donc décidé la mort d'un homme. Car il faut être honnête et au moins respecter la vérité des mots. Derrière l'arrêt des soins, c'est bien la mort et la mort de faim d'un homme qui a été décidé. Cette décision, elle est extrêmement lourde aussi, puisqu'il y a 1500 patients en France qui sont dans la même situation que Vincent Lambert. Et la décision du Conseil d'État, évidemment, pèsera lourd sur leur devenir. Ensuite, cette décision, elle repose la question vraiment de la fin de vie. Est-ce que le fait d'alimenter, d'hydrater une personne lourdement handicapée, qui, elle, n'était pas en fin de vie, il faut rappeler que Vincent Lambert pouvait continuer à vivre, il respirait par lui-même, etc., simplement étant tétraplégique, étant dans un état pokyrolosomnède, il ne pouvait pas s'hydrater et s'alimenter par lui-même. Est-ce que cette alimentation, cette hydratation, est-ce que c'est considéré comme un traitement abusif, disproportionné, ou comme simplement un soin dû à toute personne? Le Conseil d'État a tranché en disant que c'était de l'acharnement thérapeutique, donc un traitement disproportionné. C'est un cas, une situation éminemment douloureuse, délicate, compliquée. J'imagine que les juges ont pris leur décision en conscience et sans légèreté, mais je crois que cette décision est très très grave, parce que c'est rien de moins que la vie ou la mort d'un homme qui était décidé.
Le Conseil d'État parle d'une obstination déraisonnable pour le maintien en vie de Vincent Lambert, dans les termes précis.
C'est là où il y a un vrai désaccord de fond, c'est que Vincent Lambert n'a pas de traitement qui le maintienne en vie. On parle là simplement et uniquement de l'alimentation, de l'hydratation. Beaucoup d'autres personnes lourdement handicapées ne peuvent pas s'alimenter par elles-mêmes. Beaucoup disaient que l'alimentation et l'hydratation ne peuvent pas être considérées comme des traitements disproportionnés relevant de l'acharnement thérapeutique, simplement comme un soin dû à tous. Vincent Lambert n'était pas en fin de vie. Vincent Lambert est lourdement handicapé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est étonnant de réclamer dans ce cas l'application de la loi Leonetti qui a été faite pour la fin de vie. Le doute doit bénéficier à la vie. Vincent Lambert n'a pas exprimé le désir de mourir. Faire dépendre la valeur d'une vie de sa capacité de relation, alors dans ce cas-là, c'est condamner beaucoup de personnes.
L'abbé Pierre-Hervé Grosjean, interrogé par Jean-Baptiste Cocagne, un témoignage à retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Et à noter que la Cour européenne des droits de l'homme a annoncé ce mardi avoir été saisie en urgence par les parents de Vincent Lambert. Mais Myriam, cette chrétienne soudanaise condamnée à mort pour apostasie, a été arrêtée à l'aéroport de Khartoum alors qu'elle tentait de quitter le pays. Elle avait été libérée la veille après l'annulation de sa condamnation par la cour d'appel soudanaise. Myriam Yahya Ibrahimi Cheg avait été condamnée à la pendaison le 15 mai dernier pour avoir abjuré l'islam. Elle avait été emprisonnée avec son fils âgé de 20 mois et avait accouché en détention après sa condamnation à mort d'une petite fille. La jeune femme avait également été condamnée à 100 coups de fouet pour adultère après s'être mariée à un chrétien originaire du Sud-Soudan. Cette affaire a provoqué un vif émoi au sein de la communauté internationale et une intense pression diplomatique sur les autorités de Khartoum. Des ONG comme Amnesty International ou l'ACAT et des États, Grande-Bretagne, États-Unis en tête, ont pris fait et cause pour la jeune femme. L'annonce de sa libération ce lundi avait aussitôt fait le tour du monde. Jean-Baptiste Cocagne.
Sa liberté n'aura duré que quelques heures. Sortie de prison lundi soir, Myriam Ibrahim a été arrêtée à l'aéroport de Khartoum moins de 24 heures plus tard. Avec son mari de nationalité américaine et ses deux enfants, elle s'apprêtait à prendre un avion pour quitter le Soudan mardi en début d'après-midi. Le couple a été arrêté et emmené dans les locaux du Service national de renseignement et de sécurité, selon une information rapportée par un proche de la famille. Aucune information en revanche concernant le sort des deux enfants ni sur les motifs précis de l'arrestation. Aucune précision non plus sur les motifs de l'annulation de la condamnation à mort visant la jeune chrétienne. Mardi, en fin de journée, la cour d'appel soudanaise n'avait toujours pas publié ses justifications. Quoi qu'il en soit, la nouvelle détention de Myriam Ibrahim douche la vague d'optimisme qui avait provoqué l'annonce de sa libération. Amnesty International s'était aussitôt félicité de la fin d'une injustice terrifiante et l'ONG Christian Solidarity Worldwide parlait-elle de l'annulation de verdicts injustes et inhumains. Tout en appelant tout de même à la prudence, un membre de la famille de la jeune fille avait déclaré récemment que la famille appliquerait la sentence si elle était libérée. D'ailleurs, Myriam Ibrahim s'était cachée dans un lieu secret aussitôt sortie de prison jusqu'à sa réapparition à l'aéroport de Khartoum pour une nouvelle arrestation.
Jean-Baptiste Cocagne. En Afrique du Sud, la police a arrêté deux hommes suspectés d'avoir enlevé puis tué le 15 juin dernier une religieuse américaine de 82 ans, sœur Mary Poltek, de la congrégation des sœurs missionnaires du Très Précieux Sang, proche des orphelins. Après plusieurs jours de recherche, son corps avait été retrouvé le 20 juin dans un ruisseau. Il ne présentait pas de traces de blessures par balle ou à l'arme blanche et son portefeuille contenant de l'argent liquide, son permis de conduire et ses clés étaient toujours dans ses poches. Selon la police, sœur Mary Poltek a été étranglée. Elle vivait en Afrique du Sud depuis les années 50 et avait fondé en 1955 un orphelinat, puis un foyer pour des enfants plus âgés, dont de nombreux séropositifs. C'est une décision historique. Au Pakistan, la Cour suprême a ordonné au gouvernement d'instituer un Conseil national pour les droits des minorités. Une annonce faite par le président de la Cour suite à une procédure entamée en septembre 2013 au lendemain de l'attentat contre l'église anglicane de Peshawar, une attaque dans laquelle plus de 80 chrétiens avaient été tués. Cet organisme agira comme un observatoire surveillant la condition des minorités ethniques et religieuses ainsi que les cas de violence et de discrimination. Olivier Bonnel.
La mission de ce nouvel organisme d'État indépendant sera de garantir l'harmonie religieuse et de protéger la dignité et les prérogatives des membres des minorités religieuses. Dans un texte de 32 pages, la Cour ordonne à l'exécutif de constituer une force spéciale pour protéger les lieux de culte des minorités religieuses. Elle exprime ses regrets quant aux dispositions constitutionnelles relatives à la sauvegarde des droits des minorités qui n'ont pas été respectées au Pakistan et prend position contre les discours de haine propagés sur les réseaux sociaux et contre les abus perpétrés à l'encontre des enfants à cause de leur foi. Le directeur exécutif de la commission Justice et Paix de la Conférence épiscopale pakistanaise, interrogé par l'agence Fides, évoque une décision historique dans l'histoire judiciaire du pays et dit espérer une application immédiate de cette mesure de la Cour. Depuis de nombreuses années, les chrétiens et les autres minorités religieuses, victimes de discrimination et de persécution, réclamaient l'institution d'une commission indépendante afin de sauvegarder leurs droits. Il y a 10 jours, l'organisation Minority Rights Group International indiquait dans un rapport que le Pakistan était l'un des pays les plus dangereux au monde pour les minorités religieuses. Elle dénonçait une multiplication des attaques contre les groupes minoritaires, affirmant que les homicides ciblés avaient atteint des niveaux sans précédent. En février dernier, c'est l'évêque anglican de Karachi qui lançait un cri d'alarme affirmant que les minorités au Pakistan, en particulier les chrétiens, étaient devenues la cible d'extrémistes. Il faisait état de villages incendiés, de fausses accusations de blasphème, d'intimidation, de mariage ou de conversion forcée.
Je vous rappelle qu'Asia Bibi, jeune femme chrétienne, mère de 4 enfants, condamnée à mort en 2010 pour blasphème, est toujours en prison. Elle attend depuis 4 ans de passer devant la cour d'appel de Lahore. Ces derniers mois, les dates d'audience qui avaient été fixées ont toutes été annulées à la dernière minute ou reportées. Les avocats de l'accusée ont exprimé à plusieurs reprises leur perplexité face aux atermoiements de la justice. De nombreux observateurs attribuent ces renvois à la peur des juges qui redoutent de recevoir des menaces de la part des groupes islamistes les plus radicaux. Nous en parlions dans notre précédente édition. Les paroles du pape François concernant la mafia sont loin d'être passées inaperçues. Ceux qui ont choisi un chemin de mal, comme les mafieux, ne sont pas en communion avec Dieu, mais sont excommuniés, a déclaré le Saint-Père lors de sa visite pastorale samedi dernier en Calabre, dans le sud de l'Italie, une région gangrénée par les méfaits de la mafia locale, l'Andrangheta, aux multiples ramifications. Suite à cette déclaration, lancée avec force par le pape lors de la messe à Sibari, nous avons souhaité apporter un éclairage au regard du droit canonique. Entretien avec Bernard Calba, spécialiste du droit canon, enseignant à l'Institut catholique de Toulouse.
Alors, une excommunication est une censure, c'est-à-dire une des peines les plus graves qui peut être infligée à un fidèle. Et l'excommunication est considérée comme un délit gravissime. On a l'habitude de parler d'exclusion de la communauté ecclésiale. Et c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que le pape François s'est exprimé pour signifier son intention de procéder à l'exclusion de la communauté ecclésiale de ceux qui se livrent à des activités qui sont contraires à la morale économique et sociale.
Alors, qu'est-ce que ça implique, une excommunication? Vous dites une exclusion de la communauté ecclésiale, mais quelles sont ces incidences concrètes pour un croyant?
Il faut bien avoir à l'esprit que le droit pénal de l'Église, puisqu'il s'agit de droit pénal dans le cas de l'excommunication, vise essentiellement les biens spirituels, pas les biens matériels, puisque l'Église n'a pas de moyens de coercition. Alors, s'agissant des biens spirituels, cela veut dire interdiction, par exemple, de recevoir la communion, obligation également pour le délinquant de se confesser de son propre forfait. Également, même si cela peut paraître un peu lointain, mais c'est important aussi, c'est l'incapacité de gagner des indulgences quand des indulgences sont posées par l'Église. Et puis, j'ai envie de dire, c'est peut-être dans la manifestation la plus ordinaire de la vie du chrétien que les effets de l'excommunication se font sentir, en particulier par le fait que les excommuniés ne peuvent pas, par exemple, bénéficier de funérailles religieuses. Et là, on tombe, je dirais, la vie concrète des fidèles qui, se voyant privés de funérailles, eh bien, sont directement désignés, à la face des fidèles, désignés comme de véritables délinquants. Et je pense que c'est le but poursuivi par le Saint-Père.
Quelles sont les causes, quelles sont les circonstances qui entraînent de facto une excommunication?
Alors, là, je crois qu'il faut être un peu plus prudent, puisque l'excommunication, comme vous avez dit, de facto, concerne un certain nombre d'actes délictueux. Et ce ne sont certainement pas les actes commis par les membres de la mafia qui sont visés directement, que l'excommunication de facto, c'est ce que nous appelons en termes techniques l'excommunication latae sententiae, c'est-à-dire du seul fait de commettre un délit, eh bien l'excommunication tombe. Il faut savoir que le fait d'appartenir à la mafia n'est pas dans la liste de ces excommunications. C'est donc une excommunication qui devra être prononcée. Ou alors, il faut penser que le Saint-Père envisage de modifier une partie du droit pénal pour inclure le fait d'appartenir à la mafia comme étant de facto une cause d'excommunication. Mais à l'heure où vous m'interrogez, cette excommunication ne peut pas être considérée comme étant de facto applicable. Il faut nécessairement qu'un tribunal ou une autorité religieuse se prononce pour infliger in tutu personae, c'est-à-dire à une personne bien déterminée, cette sanction.
Et donc, du coup, quels sont les délits qui induisent l'excommunication de facto?
Alors, il y a une série de délits qui sont portés par l'Église et qui emportent immédiatement l'excommunication. Ce sont des délits qui sont classiques dans l'histoire de l'Église. C'est l'apostasie de la foi, c'est l'hérésie, c'est le schisme, c'est la profanation des saintes espèces, c'est les voies de fait sur la personne du pape, c'est également l'absolution du complice dans un péché contre le sixième commandement. C'est la consécration épiscopale sans mandat pontifical, c'est également, pour terminer, la violation directe du secret sacramentel et l'avortement. Pour tous les autres cas, il peut y avoir excommunication, et on peut imaginer que dans le cas visé par le Saint-Père, eh bien, l'intention du Saint-Siège est effectivement d'imposer l'excommunication. Alors, cela peut se traduire, je dirais, dans l'immédiat, par la privation de la communion, c'est-à-dire la privation du sacrement de l'Eucharistie. En aucun cas, l'excommunication entendue au sens pénal du terme ne peut introduire de facto le cas visé par le Saint-Père le week-end dernier.
Des propos recueillis par Manuela Affigi. Le pape François, avec courage, nous a indiqué la voie à suivre. Maintenant, c'est aux prêtres, aux laïcs et aux politiciens de faire preuve de ce même courage, de ce même sacrifice pour construire le futur de la région. C'est en ces termes que Mgr Nunzio Galantino, évêque du diocèse de Cassano a Lionio et secrétaire général de la conférence épiscopale italienne, est revenu sur la visite du pape François soit en Calabre. Le futur se construit maintenant, a-t-il clamé. Libérons les extraordinaires énergies qui caractérisent notre terre. Le pape, avec son témoignage, nous confirme que les choses ne peuvent changer que si nous changeons nous-mêmes. C'est un prêtre québécois, Réal Tremblay, qui a été nommé par le pape François président de l'Académie pontificale de théologie. Âgé de 73 ans, ce prêtre rédemptoriste est professeur émérite de théologie fondamentale et morale à l'Académie alphonsienne. Il a été membre et consulteur de plusieurs conseils pontificaux et congrégations, notamment la Congrégation pour la doctrine de la foi et la Congrégation pour le clergé. Très surpris d'avoir été choisi en raison de son âge, il évoque sa vision et ses objectifs pour les années à venir.
Évidemment, je n'avais pas cherché cette haute responsabilité, puisqu'elle m'a été offerte de la part du Saint-Père. Alors, évidemment que je l'ai acceptée avec joie et dans un esprit d'obéissance totale, pensant que lui aussi a été convoqué à un grand ministère à un âge assez avancé, de même que Benoît XVI, du reste. Je suis encore en relativement bonne santé et je donne ma collaboration tant que je pourrai.
Et alors, quelle est votre vision?
On a travaillé quand même très bien depuis des années. Je voudrais continuer ce travail-là, approfondissant encore certains secteurs pas encore touchés par nos réflexions, mais qui devront l'être, parce que j'ai une idée importante dans ma tête, c'est que la théologie est faite pour faire vivre le monde. C'est pas fait pour les bibliothèques, c'est fait pour justement aider les gens à vivre l'Évangile. Je pense que l'Académie devra, dans les années qui viennent, être peut-être plus attentive au contexte dans lequel l'Évangile est annoncé aujourd'hui. Et je me situe dans ce sens-là, dans les pas des deux pontifes de Benoît XVI et du pape François, qui ont toujours été l'un et l'autre très, très présents à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc, nous allons faire un effort de réflexion approfondie pour préciser les traits de la société dans laquelle nous vivons, pour que l'Évangile vraiment soit annoncé de façon efficace. Et cela sans sacrifier en rien le noyau doctrinal de la pensée de l'Église, qui est fondamental. C'est ce noyau doctrinal qui fait vivre le monde aussi. Hein. On peut diminuer le noyau doctrinal de l'Église en raison du contexte dans lequel il est annoncé. Les deux choses vont de pair. Et voilà le grand défi relevé, c'est de penser ces deux réalités ensemble, d'une façon organique, dans le but de rejoindre les gens et de le faire avec Christ.
Alors le pape émérite Benoît XVI a été votre professeur.
Oui.
Comment ces enseignements donc, que vous avez reçus de sa part vont vous aider en tant que président de l'Académie pontificale de théologie?
Moi, évidemment que j'ai étudié à fond la pensée de Ratzinger, je la connais bien, j'ai dirigé plusieurs thèses de doctorat, et justement, quand nous l'avons visité dernièrement, nous y avons apporté une thèse qui a été faite au Latran, qui a été reconnue comme la meilleure thèse de l'Académie 2012-2013, justement qui porte sur le cœur, sur un noyau dur, je dirais, de la pensée de Ratzinger, personne et communion. Ce que je retiens de lui, donc c'est sa grande théologie, son grand esprit, sa manière très précise de penser, de réfléchir, et surtout, toujours son intérêt pour rendre la théologie attrayante et vivante et séduisante. De la mettre à la disposition des gens, afin que les gens en vivent et qu'ils puissent de cette manière rencontrer le Christ.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.